sort pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Pro et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Il est 23h sur Europe 1. Le tour de l'info, c'est avec vous, Maëlle Assali. Bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Défaite du Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions de football. Le Borussia Dortmund s'impose 1-0 sur son terrain. Un but de Niklas Füllkrug à la 36e minute de jeu. Tout reste possible pour le PSG car le match retour aura lieu au Parc des Princes mardi prochain.
Oui.
19 départements toujours en vigilance orange, de la Bourgogne au Hauts-de-France en passant par la région parisienne. 14 départements pour les risques d'orage et 5 départements pour pluie inondation. 600 éléments radicaux ont infiltré le cortège parisien lors du défilé du 1er mai, selon le préfet de police. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. 13 agents sont blessés et 45 personnes interpellées. Des incidents signalés également à Nantes, à Rennes ou encore à Lyon. Au total, 121 000 manifestants sont descendus dans les rues du pays aujourd'hui, selon les autorités. Plus de 200 000 d'après la CGT. Lui n'était pas le bienvenu dans la manifestation à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann a dû fuir le cortège. Des militants pro-Gaza l'ont invectivé avant de lui jeter de la peinture. La tête de liste PS aux prochaines élections européennes pointe la responsabilité de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon dément. Le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans vient d'entrer en vigueur à Nice. Cette restriction va s'appliquer tous les soirs tout au long de la période estivale. Le maire Christian Estrosi a décidé de rétablir cette mesure déjà expérimentée ces dernières années afin d'endiguer la flambée de violence chez les plus jeunes. Ce couvre-feu concerne même les moins de 16 ans dans le quartier des Moulins, l'un des plus sensibles de Nice. Une grosse prise au large de l'île Saint-Martin dans les Antilles françaises. 1,8 tonnes de cocaïne saisie par les gendarmes. Des dizaines de ballots se trouvaient sur un bateau qui venait de s'amarrer à un ponton. Ses occupants ont pris la fuite et n'ont pas été retrouvés pour l'instant. Les Antilles sont une zone de transit prisée des trafiquants pour faire passer la drogue en métropole. À l'étranger, le Hamas réclame toujours le retrait d'Israël de la bande de Gaza et un cessez-le-feu permanent pour conclure un accord de trêve. Une proposition a été transmise au mouvement terroriste pour un arrêt des combats de 40 jours, assorti de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Selon un dirigeant du Hamas, une réponse sera donnée dans très peu de temps. L'État hébreu fixe la limite à ce soir. C'est un Harvey Weinstein diminué en chaise roulante qui s'est présenté devant le tribunal de New York aujourd'hui. L'ancien producteur star d'Hollywood comparaît pour sa première audience vers un éventuel nouveau procès. Ça fait suite à l'annulation de la semaine dernière de sa première condamnation pour viol et agression sexuelle en 2020 à cause d'erreurs dans la procédure. Harvey Weinstein fut la première cible du mouvement MeToo en 2017.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Pourquoi ce morceau, Olivier? Eh bien parce qu'il s'agit de l'un des titres de jazz les plus célèbres au monde, Louis Armstrong, oui. What a Wonderful World.
Magnifique.
Et il faut savoir que c'est un 1er mai en 1916 que le jazz a officiellement été reconnu comme un genre musical à part entière aux États-Unis. Le jazz est né à la fin du 19e siècle au sein des communautés afro-américaines.
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi. Crying. much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Louis Armstrong, What a Wonderful World, sorti en 1967.
Magnifique. Merci, mon cher Maël, pour ce moment musical. Et on vous retrouve à minuit pour un nouveau tour de l'info.
Tout à fait.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Il est 23h passées de 6 minutes et si vous êtes arrivé juste maintenant, eh bien vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21, vous le savez, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes contents et heureux de vous accompagner et nous sommes avec Myriam depuis le début de cette émission qui évoque sa jeunesse martyrisée par des parents maltraitants. Aujourd'hui, vous faites du kickboxing, hein, vous m'avez dit Myriam, et vos entraîneurs vous ont beaucoup apporté, je crois.
Oui, tout à fait. Mes entraîneurs, ils m'ont énormément apporté, bien sûr, que ce soit d'un point de vue évolution physique, de l'endurance, de la force et de la technique, bien sûr. Mais surtout, le plus important pour moi, mes entraîneurs, ce sont surtout des guides de vie, un peu des coachs de vie, où par leurs conseils avisés, bienveillants et leur grande force, en fait, ils ont su toujours m'accompagner dans mes hauts et dans mes bas pour faire de moi un être humain, on va dire, épanoui, accompli, et surtout, ils m'ont donné une force mentale qui me permet de surmonter bon nombre d'épreuves. Et ça, je leur dois en grande partie à eux, à leur investissement avec moi.
Quel sourire, quel sentiment vous nourrissez vis-à-vis de vos parents aujourd'hui? Est-ce que vous êtes apaisé? Est-ce que la colère est-elle toujours là? Comment vous sentez-vous par rapport à eux?
Je pense que je suis triste, oui, par rapport à eux. Je suis triste par rapport au fait, finalement, bien sûr, de jamais avoir connu cet amour et cette chaleur de la part de mes parents. Mmh. Mais je suis triste aussi de les voir comme ça. Je me dis que pour ma part, le job entre guillemets a été fait et j'ai pu avancer dans la vie. Je me rends compte, je les ai revus au mois de janvier lors d'un repas familial. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas été réunis, la famille.
Vous êtes retourné quand même les voir?
Donc c'était un repas, c'est tout.
Mm-hmm. Au restaurant. À quelle occasion?
Pour aucune occasion particulière, simplement mon frère habite à l'étranger, ma sœur également. Et cette fois-ci, on était donc mes deux frères, ma sœur, moi-même et mes parents en Suisse en même temps. Et c'est eux-mêmes qui m'ont demandé si je souhaitais manger au restaurant avec eux. J'ai hésité longuement et je me disais qu'au pire, ce serait au même point qu'avant et qu'au mieux... peut-être il y aurait une petite lumière. Au final, le repas s'est très bien passé, mais bien sûr, ce n'est qu'un repas et ce n'est pas une relation. Et je n'ai pas repris de contact avec eux par la suite. Mais je pense que je suis vraiment triste aussi qu'eux-mêmes ne soient pas heureux, épanouis dans leur vie. et que la relation en fait soit figée à ce point-là. Mais pour ma part, je vous le dis honnêtement, j'ai pas d'espoir que ça change.
Oui, j'allais vous demander, qu'avez-vous senti lors de ce déjeuner, hein, que rien n'avait avancé, rien n'avait changé?
On n'a pas parlé de sujets délicats. On a parlé honnêtement de la pluie, du beau temps et de sujets peu profonds. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. Mais je sais vraiment que, par exemple, aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas mes opérations du cœur, ni ma maladie. Et ça, pour moi, c'est une preuve évidente qu'ils n'ont pas évolué. Et que, honnêtement, je pense pas que ça changera un jour. Moi, je suis apaisée par rapport à moi, sereine par rapport à moi-même, mais par rapport à la relation avec mes parents, je suis juste triste. Voilà, je trouve ça dommage que, déjà pour mon enfance qui a été vraiment sacrifiée pour leurs besoins à eux, leurs désirs à eux, leur confort à eux. Et je trouve ça, pour moi c'est une tragédie ce qui s'est passé entre nous, et c'est un mot qui ne changera jamais.
Oui, ça ne changera jamais en fait.
J'ai plus ce manque. De leur amour, je ne le ressens plus.
Ah oui, mais l'avez-vous trouvé ailleurs, l'amour aussi?
Oui. Oui, je l'ai trouvé ailleurs.
Ça aide, ça, aussi, beaucoup. Je pense dans le fait que vous ne vous trouviez pas légitime avant, c'est sans doute parce qu'il n'y avait que cet amour-là qui était apporté. Votre vie de jeune femme vous a apporté l'amour dans votre vie, et donc vous a sans doute fait réaliser que l'amour était possible, hein, que c'était quelque chose de réel, et qu'on pouvait vous aimer, qu'on pouvait s'occuper de vous, vous protéger.
Oui, et c'est, ça va vous paraître idiot entre guillemets à dire, mais c'est aussi l'amour de moi-même que j'ai trouvé.
Complètement. Mais ça ne me paraît pas du tout idiot. Ouais. Bien au contraire.
Alors bien sûr, l'amour de moi-même, j'ai aussi retrouvé, parce que je voyais ce respect dans le regard des autres quand ils me parlaient. Et ce respect, cette bienveillance, cet attachement. Mais l'amour, je l'ai aussi trouvé pour moi-même. Et de moi-même et pour moi-même. Et celui-là, c'était totalement banni dans mon enfance.
D'accord. Ben écoutez, c'est fantastique de voir combien vous avez su tirer des enseignements de votre vie, de l'épreuve, hein, de l'adversité. Et puis, vous avez publié donc ce livre « Itinéraire d'une survivante » aux éditions Favre. Ce livre, vous l'avez publié en 2019. Et si vous voulez vous le procurer, il est toujours disponible, chers amis. Merci, Myriam, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bon vent à vous, là-bas, en Corse, chez nos amis corses, tellement plein d'hospitalité, ces Corses, en fait. J'adore la Corse, j'adore aller en Corse, et on leur souhaite le bonjour, bien évidemment. Bon vent à vous, ma chère Myriam.
Avec plaisir, merci beaucoup, Olivier.
Bonsoir.
Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. So good, so right. We'll be right back.
Avec Imagination, pas du tout les Bee Gees. Excusez-moi, non, Imagination. Il est 23h17 sur Europe 1. En plus, je n'ai même pas regardé le titre tellement j'étais sûr que, voilà, de moi, comme quoi, par moment. Historiquement vôtre avec Stéphane Baird vous racontera demain l'histoire de Madeleine et Thérèse Clémenceau, les filles du père La Victoire. C'est Stéphane Baird dans Historiquement vôtre de 15h à 16h. Tous les jours. 23h17 sur Europe 1 et nous accueillons Steve. Bonsoir Steve.
Oui, bonsoir Olivier, ça fait plaisir de vous avoir.
Ah,
vous
allez très bien. Bonsoir, oui, ça va et vous?
Bah écoutez, là, maintenant que je vous ai en ligne, oui.
Très bien, très bien. Quel âge avez-vous, Steve?
Alors, 32 ans et depuis Bordeaux, voilà, je vous appelle. Enfin, là, je suis dans les Landes, là, pour l'instant.
Mais... la chance. Où est-ce que vous êtes dans les Landes?
Oui. C'est magnifique. Bah, c'est un petit bled, Barbotin-les-Thermes, c'est pas loin de... Enfin, c'est à 30 km de Mont-de-Marsan.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous habitez là-bas?
Je vais voir mon père.
D'accord. Cette semaine. Très bien.
Et puis là, il y a un air frais, là, ça fait du bien quand même. Moi,
Vous avez des orages aussi là-bas?
Ah oui, là c'est un petit peu venteux, mais ça va quand même.
Bon, très bien.
Mais ça me fait plaisir de vous avoir, parce que si vous voulez, je vous avais eu, ça remonte un peu. Je pense pas que vous allez vous rappeler de moi, mais c'était vers 2020.
Oui.
Je vous avais appelé parce que j'avais eu une rupture sentimentale ultra violente. Et j'avais vécu ça vraiment comme un deuil, quoi, en fait. Désolé du mot, mais c'est oui. Vraiment ça.
C'est souvent comme cela que l'on vit une fin de relation. Hein. On peut emprunter ce mot deuil.
Oui, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais pour moi, c'est le deuil d'une personne vivante. Quoi. C'est violent. Quoi. Enfin, voilà. Et si vous voulez, quelques mois plus tard, alors si vous voulez, en fait, je voulais vous rappeler quelques mois plus tard parce que j'ai retrouvé l'amour et je suis depuis 4 ans avec la même personne.
Ah, super!
Et oui, et alors j'avais pas pu vous alors j'avais eu deux crises de calcul rénaux et pour ceux qui connaissent le terme médical c'est colique néphrétique.
Ouais, c'est terrible.
Voilà. Et à chaque fois que je voulais vous rappeler, le destin a voulu que j'avais ces crises là voilà. Donc et je m'en suis toujours entre guillemets parce qu'en fait, je veux donner de l'espoir aux gens, en fait, je voulais, si vous me le permettez, je voulais donner ce message important comme quoi on peut être au fond du trou, avoir vraiment de vivre une rupture, un deuil, et croire que tout est fini. Et par miracle, je dirais oui, par miracle, il peut y avoir tout à coup une rencontre qui, vous voyez, là, ça fait 4 ans, enfin, vous voyez, quelque chose qui change votre vie et qui. Les miracles existent, quoi. Je veux vraiment que les gens le sachent, quoi.
Est-ce à dire que l'amour est miraculeux?
L'amour ou les belles choses qui nous tombent dessus, je voulais vraiment faire passer ce message, quoi, que ça, c'est possible, quoi, voilà,
tout est possible,
rien n'est jamais perdu, quoi, voilà.
Je le dis souvent.
C'est vrai. Et moi-même, je ne le croyais pas. Et la dernière fois, je voulais vous dire autre chose. Décidément, vous allez vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais comme je voulais vous avoir...
C'est bien, je suis ravi.
Je voulais vous dire, il est pas net, lui.
Non, pas du tout.
En fait, je voulais vous faire part d'une anecdote totalement amusante. Alors, la dernière fois, je n'avais pas osé vous le dire, mais elle est complètement étonnante. En fait, pendant 3 ans d'affilée, il y a presque 15 ans de ça, j'avais 18 ans, j'avais rêvé de vous fréquemment, oui. En fait. Comme si vous étiez un conseiller d'éducation, d'orientation. Mm-hmm. Alors, je ne vais pas vous raconter, vous en faites pas les détails de ma vie, mais j'avais besoin d'un éclairage, j'avais besoin d'un grand frère ou quelqu'un, une figure en fait solide, quoi, qui pouvait m'aiguiller. Et je pense que d'avoir vu avec ma mère, je voyais vos émissions dans les yeux d'Olivier.
Oui.
Donc ça remonte, c'était les premiers, hein, vraiment au début des années 2010, je pense. Et je pense que ça, que j'absorbe les comportements, les âmes des gens, et vous m'avez marqué. À 18 ans, je sentais une figure paternelle ou enfin fraternelle qui pouvait m'aider, et j'ai eu un rêve récurrent de vous, et c'était toujours le même rêve en fait. Je venais dans le bureau, vous étiez comme un lycée par exemple, oui, c'était oui. Un conseiller d'éducation.
Oui.
Les gens vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est un rêve qui, du coup, pendant, oui, 3 bonnes années, c'est quelque chose qui marque.
Vous avez rêvé régulièrement de ça ?
Oui, c'était toujours la même chose. Je venais au bureau, on me disait, voilà, on va, et je te tutoyais, désolé, mais à un moment donné, je disais, Olivier, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'aider ? Et on dirait que vous étiez presque un père de substitution pour. Et ces rêves étaient extrêmement réalistes, au point que ça se transformait en rêve lucide. Hein, c'est-à-dire que certaines personnes, peut-être vous-même vous le savez, mais c'est des rêves où on sait qu'on rêve à un moment donné, on sait que c'est un rêve, mais tant pis, on y reste.
Mmh. Oui, je vois.
Voilà.
Mmh. C'est assez agréable, donc, d'ailleurs, voilà. Comme rêve, je trouve.
Ah oui, et donc vous aviez cette figure rassurante, et quand je vous entends à la radio, parce que bon, il y a 13 ans. Ou une quinzaine d'années, ça passe vite, donc ça reste toujours prégnant en moi. Quoi. Quand j'entends votre voix à la radio, je me dis parce que les rêves sont bien faits, en fait. C'est comme si je vous avais eu régulièrement, vous voyez, enfin voilà. Quoi.
Et donc, j'ai réussi à vous donner quelques conseils dans ce rêve, au moins.
Oui, et c'est complètement dingue, c'est que oui. Et alors, je vais vous dire un truc qui est complètement fou. Je vous ai dit, j'ai dit, Olivier, vous ferez de la radio, vous avez aidé énormément de gens. Et quand j'ai appris que vous faisiez de la radio, donc il y a quelques années,
oui, parce que je suis venu tard à la radio.
Voilà. Et quand j'ai appris que c'était la radio, bon, mais tout ça, ce que je vous dis ce soir là, je le dis pas aux gens, quoi. Enfin, mm-hmm. c'est normalement mm-hmm. c'est personnel, quoi. Mais bon. Et donc quand je vous avais fait la radio, je me suis rappelé de ça parce que j'ai une excellente mémoire. Voilà. Et je vous avais dit, vous avez aidé beaucoup de gens, vous avez fait la radio, et depuis. Et ensuite, je ne vous ai plus, et quand ma vie allait mieux, j'ai jamais plus rêvé de vous.
Ah, bon, bah super, au moins, voilà. J'aurais servi à quelque chose dans vos rêves.
C'est ça, voilà. Bon, écoutez, c'était une drôle d'anecdote.
Vous voulez me parler des interactions homme-femme,
oui,
je crois.
Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, Olivier, je voulais parler ce soir d'un sujet que je trouve extrêmement tabou, honteux même, pour beaucoup de gens. Mais moi, j'ai envie de le mettre sur la table ce soir. On peut en prendre quelques minutes, vous en faites pas, on va pas forcément détailler totalement ce que je pense, mais c'est sur la misère affective et sexuelle des hommes.
Oui.
On parle souvent des femmes, de leurs problèmes, etc. À raison. Les hommes ont été très très cons avec les femmes pendant très longtemps. Mm-hmm. Donc on le paye un peu, quoi. Voilà, on le paye beaucoup même. Mm-hmm. Mais on paye
pour voilà. Une partie, oui, de ces hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bien, qui sont respectueux.
C'est sûr. Oui. Eh bien, justement, c'est tout là ce que je veux dire, c'est qu'on le paye de manière disproportionnée, je dirais. Même voilà, même ça va pas plaire aux féministes radicales.
Mais on s'en fout des féministes radicales. Oui. On s'en fout.
Oui. Bah, voilà. Mais, du coup, c'est pour ça que j'avais besoin de vous en parler. Je sais que vous êtes ouvert d'esprit. Et puis passer à une antenne, voilà. Et alors je le vois autour de moi, si vous voulez, je vous le dis, hein, il y a une dépression latente,
Et qui est due à quoi, en fait, à votre avis ?
Alors, une galère perpétuelle. Les amis que j'ai, ils rament totalement pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'affection. Même pas de sexe, je vous dis. J'entendais hier, vous savez, les accro-sexes au Cap d'Agde et tout. Mais je tiens vraiment à préciser que je ne parle pas de ça. Mm-hmm. Je parle de sexe, mais parce qu'on en
oui,
a
non, mais vous parlez de relations normales, en fait.
Voilà, affectives et sexuelles. Voilà, parce que je trouve... le sexe lié à l'affect, lié au, voilà, au charnel, mais qui est au sens le plus noble du terme, et bien même ça, qui pour moi, je trouve, est carrément une composante essentielle, quoi, pour nos relations.
C'est important, oui.
Et bien, la plupart de mes amis, et d'autres, j'entends partout, bon, j'ai fait des études de psycho, j'ai quelques relations, etc. Je travaille en milieu carcéral, là, bon, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je dans la société, on va dire, qui tourne, je constate que une grande misère est due à des dépressions. J'ai des gens en dépression et je sais d'où ça vient. C'est parce qu'ils galèrent ils se font recaler, ils sont mal compris par les femmes, etc.
Les hommes ne rencontrent plus les femmes, ils ont des difficultés à rencontrer les femmes.
Alors, totalement. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai arrêté, pour être honnête, de sortir là. Je vais vous parler de mon expérience d'avant le Covid, où je sortais beaucoup en soirée. Mm-hmm. C'est très simple. Il y a une loi qu'on ne peut pas réfuter. Et là, je ne sais pas comment ça se passait avant, mais si une nana, une fille voulait rentrer le samedi soir, elle sort à Bordeaux ou ailleurs, elle décide de rentrer avec un homme.
Oui.
Elle rentre avec un homme. J'ai vu ça tout le temps. Tandis qu'un gars qui veut rentrer avec une femme, ou ne serait-ce que même d'avoir un début de relation sympathique, quoi, une approche qui débouche sur une discussion sympathique.
Oui.
Jamais. C'est-à-dire que, quand une fille veut se rentrer avec quelqu'un, elle y arrive, et un homme, il peut pas. Voilà. C'est ce que j'ai constaté trop souvent. En fait, il y a une facilité pour les filles d'avoir. Il y a une. Quoi que disent en fait les féministes, il y a quelque chose qui s'est inversé. Il y a maintenant beaucoup d'avantages sociaux pour les filles. En tout cas, au niveau du domaine, je ne parle pas du domaine professionnel, etc. En tout cas, du point de vue strictement de ces relations humaines. Mm-hmm. Les filles peuvent être beaucoup plus satisfaites et contentées qu'un homme. Et pour moi, ça, c'est un fait, quoi. C'est même pas quelque chose qui a à débattre, quoi. Et d'être devancé comme ça, beaucoup le vivent très mal et ont des dépressions sévères.
Mais ils sont recalés pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il y a aujourd'hui une image écornée de l'homme en société ?
Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de la concurrence, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est l'offre et la demande, quoi. C'est-à-dire, vous le voyez, ne serait-ce que sur les sites de rencontres. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez Adopte-un-mec, tout ça.
Non.
Mais en fait, c'est très simple. Les filles sont avantagées. Comme certaines boîtes, elles ne payent pas. Et c'est elles qui font leur marché sur certains sites. C'est elles qui choisissent le mec, elles le met dans le chariot.
Oui.
Vous voyez, voilà. Enfin, ce genre de truc, quoi. C'est assez révélateur. Mm-hmm. C'est la nana qui, la fille, a le choix. En fait, on pourrait résumer ça comme ça. L'homme n'a pas le choix.
Et est-ce que ça n'est pas dû à cette guerre ouverte menée par les féministes, dont vous parliez tout à l'heure, qui, même si elles sont minoritaires, crient plus fort que tout le monde, et font passer un message dans notre société, et qui pendant longtemps ont fait passer ce message depuis 10 ans que... que les hommes étaient des salopios, que les hommes étaient des obsédés, que les hommes...
Des prédateurs, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai des amis, certes, qui ne sont pas parfaits, qui peuvent être bruts de décoffrage, qui sont un peu concons dans leurs blagues, mais bon, sans être des bofs absolus, quoi. C'est des mecs qui peuvent être adorables, etc. Ils ont très vite été perçus comme des potentiels dangers, quoi, par des nanas ou avec un certain dédain, les recaler, parce que de toute façon, elles ont le choix, quoi. Mmh. Vous voyez, c'est dégage, ou alors elles jouent un peu avec lui. Enfin, c'est malsain, je trouve. Hein. C'est malsain. Enfin, il y a une dépression due à un manque de... Et puis, sans compter, moi, ce que j'ai appris récemment, Olivier, je vous le dis, c'est très grave, quoi. Le service des consommateurs, il devrait vraiment faire quelque chose. De plus en plus de sites jouent sur la misère affective, créent des faux profils. Et je ne parle pas des consommateurs. Hein. Ouais. C'est gravissime. Hein.
De faux profils.
Payer... Ah oui, oui, totalement. Il y a des sites, je peux pas dire le nom, les noms, il y en a énormément, de plus en plus. Mm-hmm. Ils font parler la personne, l'homme. Oui, je suis Tania, machin. Et le mec, du coup, il paye et il joue sur la misère affective, qui est un phénomène de société. Et les sites en profitent, évidemment. Tout est bon pour se faire du pognon. Et j'hallucine, quoi. C'est vraiment quelque chose de. Il y a des plaintes de plus en plus auprès du Union des consommateurs. Je sais plus comment s'appelle l'organisme exactement. Mais...
Je ne sais plus comment s'appelle cette ouais. Oui, mais alors je ne savais pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. Vous voyez ça.
Ah ben je vous jure, vous faites quelques petites recherches, vous verrez que je raconte pas de bêtises. C'est totalement hallucinant. Et moi je croyais que c'était.
En fait, de faux profils qui parlent donc.
Oui.
C'est-à-dire de faux profils derrière leur clavier qui ne sont pas en fait.
Ils sont financés, enfin ils sont rémunérés sûrement par le site et c'est leur business de tenir comme pour la voyance par exemple l'audiotel et tout ça.
D'accord.
De faire. Ah oui, ils jouent sur la misère affective qui est un vrai problème. Les dépressions, les suicides et tout ça sont en partie dus à un manque cruel de relations humaines et de. C'est un jeu malsain, quoi, qui se produit. Et du coup, je ne veux pas défendre.
Il faudrait que les filles prennent la défense des hommes, vous savez.
Il y a
quelques filles hein, sur TikTok, sur Instagram, qui produisent des vidéos assez drôles, d'ailleurs, très très franches du collier. Mais bon, qui sont des femmes qui s'assument totalement, en fait, et qui se mettent à l'égal des hommes, en fait, parce que finalement que quand on est normal, on s'aperçoit qu'on est l'égal des femmes pour tout un tas de choses. Alors pas au niveau de la force physique, mais voilà, les femmes nous apportent des choses et nous apportons des choses aux femmes. Enfin, c'est moi j'ai toujours eu un rapport excellent avec les femmes. Mais vous savez tout ça, je crois que finalement c'est une histoire de respect en fait. Voilà, après je. On n'a pas le même âge, vous voyez, donc l'époque a changé beaucoup. Et moi, je ne me souviens pas avoir ressenti une misère affective chez les hommes quand j'avais 30 ans.
Vous voyez ? Justement, c'est parce que je pense que c'est le. Ah non, non, mais je pense que c'est nouveau. Je pense que c'est nouveau. Je pense que c'est. On vit le début d'un phénomène, mais qui est. On peut pas. Là, il y a une sorte d'inversion, on va dire, de vengeance, entre guillemets, beaucoup de féministes parlent des droits des femmes plus que tout, là, depuis quelques années. Et encore une fois, moi, je suis pour ce combat, mais à condition que les défauts qu'on reproche aux hommes, en fait, que les défauts qu'on a reprochés aux hommes dans nos sociétés d'avant, c'est pas pour les retrouver chez les femmes maintenant, quoi.
C'est clair, c'est clair.
Mmh. Et c'est ce qui il y a cette volonté, je dis pas de toutes les femmes heureusement, mais d'une bonne partie de féministes, comme vous dites, qui hurlent très fort et qui endoctrinent un petit peu. Je suis désolé, ce sont des idéologues qui en fait martèlent en tête les esprits.
Mais il y a tout un tas de chapelles qui sont, je vous dis, de petites chapelles, dont des féministes qui ont semé le trouble en fait, tout en voulant bien faire, hein, je suppose, mais et qui voient en chaque homme un ennemi potentiel. Et on le sait, c'est pas comme ça que ça marche. Tous les hommes ne sont pas les ennemis des femmes et vice versa. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent avancer ensemble et construire ensemble. Mais vous savez, on est dans une société où tout se mélange. Vous voyez, tout devient. Il y a plus de limites en fait. Et je pense que en repoussant les frontières comme ça. Qu'on dit être les frontières de la liberté, on brouille les pistes.
Au nom de la liberté, on fait.
Au nom de la liberté, on fait un peu n'importe quoi aujourd'hui.
Ça, c'est les. Et alors, ça me fait rire parce que c'est la frontière est fine une pensée totalitaire. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté ou au nom de la sécurité, on fait des dérives comme ça, quoi. Au nom du bien, on peut faire, c'est dangereux, quoi. Je trouve que il faut se calmer. Comme vous dites, il faut avoir un certain recul. Et je trouve que il y a toujours ces extrémités qui peuvent rendre une société malsaine, quoi, en fait. C'est dangereux. Moi, j'ai un ami, là, qui est coach sportif sur Paris. Je vais de plus en plus sur Paris parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Paris aussi, mais ça, c'est notre histoire. Et il est coach sportif et il me raconte des histoires de ses salles de sport, il parle, en fait, il fait un petit travail journalistique, en fait. Il parle avec les gars de la salle de sport et souvent il me raconte des choses. Enfin, on a écrit un livre là-dessus, en plus, sur ce sujet. Et il y a vraiment un constat à faire, c'est qu'il y a une forme de détresse, j'ai envie de dire, quoi. Une détresse masculine, en fait, face à cette mutation. Comme vous dites, à 30 ans, je pense que, bon, j'ai vu des reportages, des films, à votre époque, à 30 ans, il y avait une certaine, nonchalance, entre guillemets, vous faisiez la fête, il y avait une aisance.
Il y avait une simplicité dans les rapports humains qui n'est plus celle d'aujourd'hui. C'est une évidence. Les réseaux sociaux ont amené le trouble, en fait, dans la tête des gens, mais des hommes comme des femmes. Vous voyez, je me souviens avoir fait un tournage il y a 2 ans avec, vous savez, ces jeunes femmes qui font des collages de phrases dans les rues contre les violences faites aux femmes.
Oui.
Et je me souviens avoir fait un tournage avec elles qui s'est très bien passé, à la fin même l'une des jeunes filles qui me disait « Ah, ma mère vous connaît depuis très longtemps, elle regarde vos documentaires, voilà, elle vous aime beaucoup. » Et me retrouvait avec un message après, sur Instagram, où, comme si cette jeune fille ne pouvait pas se permettre de dire que ce tournage s'était bien passé, avec un homme de plus de 50 ans, blanc, mais elle parlait de cisgenre, de sororité, c'était franchement, c'était bas de gamme, en fait.
Je ne sais même pas ce que c'est cisgenre, vous voyez.
Cisgenre, je crois, pouvoir dire que c'est hétérosexuel, en fait, un homme cisgenre.
Ah oui, ok.
Voilà.
Oui.
C'est un homme normal, quoi.
Mais bon. Ça, c'est terrible.
Un homme normal. Je ne voulais pas dire que les autres ne sont pas normaux, mais ça veut dire ça, je crois.
C'est ça, ouais. Enfin, pour eux, le tout venant, enfin, hétéro.
Alors, un homme revendiqué homme et assigné homme à la naissance, me dit-on. Voilà ce que c'est qu'un cisgenre. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, je vous confirme qu'à mes 30 ans, c'était beaucoup moins compliqué.
C'est ça. Moi, je regrette qu'on mette des étiquettes. Je trouve ça, vraiment. Moi, voyant psychanalyse, je vous le dis, ça, bon, c'est purement personnel. Pour moi, on est tous bi, plus ou moins. Pas détaillé, mais on est tous plus ou moins bi. Pour moi, en fait, oui. Enfin, il y a des thèses qui, enfin, évidemment, en intercommunauté, on n'est pas d'accord forcément. Moi, on a tous un pourcentage de bisexualité plus fort que d'autres, quoi. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que il y a plein de récits, de témoignages, par exemple pendant la guerre ou dans prison, plein de choses où, selon des situations, on a des rapports avec le même sexe, par exemple, alors qu'ils se disent totalement hétéros. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'homme est à la base, on a un pourcentage de bisexualité. C'est aussi une histoire de comment? C'est aussi une histoire de situation, de... Mmh. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais bon, moi, je suis intimement convaincu qu'on est... Alors, moi, je suis pour l'universalisme, en fait. C'est-à-dire que mettre des étiquettes, ça sème le chaos, pour moi. On n'a qu'à nous mettre une petite étiquette sur le...
Écoutez, je pense surtout que ce que l'on fait de ce qu'on a dans la culotte ne regarde que nous, en fait.
Et, oui, en plus.
Et donc, toutes ces étiquettes me gênent, moi.
Oui.
Vous voyez, vous me dites ça, et moi, je ne crois pas que tout le monde soit bi, mais je ne sais pas, en fait. Et peu importe.
Oui, oui.
Et peu importe.
Oui, bien sûr.
Peu importe. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Enfin, la plupart de mes potes autour de moi sont de purs hétéros. Voilà.
Ouais, ça je rigole à chaque fois quand on me dit ça. Mais
oui, non, mais je vous jure. Ouais.
Non, mais bien sûr, ils sont tous hétéros, bien sûr.
Ouais.
Moi, j'ai eu plein de... Vous savez, j'ai eu des patients... des personnes qui, combien de gens, même dans le cercle privé, me disent qu'ils sont tous hétéros, hein, mais qu'ils ont des histoires. Voilà, enfin, vous voyez.
Oui, mais j'ai un cercle d'amis, en fait, donc je suis sûr de ce que je dis. Mais,
d'accord, oui,
parce que nous échangeons souvent aussi. Nous échangeons souvent, bien évidemment, comme les femmes le font sur la sexualité et sur nos sexualités, et ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais. Mais peu importe, finalement,
il y a
des gens qui font ce qu'ils veulent.
Non, mais c'est intéressant. Moi, si vous voulez, j'adore la psychologie, donc je vais peut-être un peu loin des fois, mais c'est vrai que voilà, moi j'aimerais qu'on soit tous indépendants, comme vous dites, sans étiquette, d'esprit, tout ça, mais il y a des idéologues qui foutent le bordel, quoi, qui veulent penser à notre place et qui nous mettent dans des cases. Ça, c'est tant que l'homme fera ça, je pense que dans une société, ça pourra jamais rouler.
Vous voyez, Marine nous écrit au 739-21, vous avez votre point de vue d'homme, mais le monde est bien plus hostile pour les femmes. Nous n'avons jamais dit le contraire, Marine. Le monde pour les femmes est bien plus hostile, vous avez raison.
Mais voyez, regardez Olivier, excusez-moi de vous couper, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'on est dans un système de compétition. Là, j'ai pas voulu opposer hommes et femmes. Et tout de suite, mais les femmes souffrent plus.
Je pense que de par la nature même des choses, parce que je le dis souvent sur cette antenne, l'homme étant plus fort physiquement que les femmes, malheureusement, cela crée cette hostilité que les femmes ressentent. Mais elles ne font pas que le ressentir, hein. Elle est bien réelle. Parce qu'il y a, il y a des hommes qui s'imposent aux femmes par la force, en fait, par leur physique. Et ça, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est... Marine, vous pensez que mon point de vue est celui d'un homme? Non. Oui, c'est le point de vue d'un homme. Mais d'un homme qui aime et respecte les femmes, qui a beaucoup d'amis femmes, qui sera le premier à sortir la machine à refouler les crétins en route.
Je vous ai suivi souvent et vous avez vraiment presque, vous êtes révolté contre des comportements.
Mais je pense qu'il a été nécessaire de. Je pense qu'il a été nécessaire de, lorsqu'on est une personnalité publique, il est nécessaire. D'user justement de ce pouvoir d'être entendu pour remettre certaines choses à leur place. Les violences faites aux femmes dans ce pays continuent de plus belle avec des gouvernements successifs qui, parlent beaucoup mais ne font pas ce qu'il faut pour réduire ces violences faites aux femmes. Je le dis souvent, on devrait appliquer le même système législatif que l'Espagne et nous réglerions en grande partie les problématiques de violence faite aux femmes. Nous ne le faisons pas. Pourquoi ?
C'est vrai.
Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. C'est une histoire de pognon. Parce qu'aujourd'hui... Mais oui ! Aujourd'hui...
Ça fait tourner le monde.
Mais, vous savez, en Espagne, aujourd'hui, un homme qui met une claque à sa femme peut dormir en prison le soir même.
Ah, oui, ça m'étonne pas.
Vous voyez ? Donc,
dans
les choses...
Pays,
bah, oui.
Sinon pire.
Mais les choses ainsi faites ont réduit considérablement les féminicides et les violences faites aux femmes en règle générale. Ça veut dire qu'il y a tout un paquet de mecs qui craignent...
Ça donne un cœur joué.
Oui, et aujourd'hui en France, savent qu'ils ne craignent pas plus que ça. Comme aujourd'hui en France, un escroc peut vous arnaquer de 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Il sait qu'il ne risque rien.
Ouais.
C'est la réalité, hein, Steve.
Ouais, je sais bien et c'est terrible parce que c'est au petit bonheur la chance, la justice, en fait, au bout d'un moment.
C'est un peu ça, en ce moment, malheureusement.
C'est terrible. Hein.
Et ce qui est terrible, c'est qu'on a une justice qui s'engorge, qui s'étouffe. Et qui fait qu'aujourd'hui, les contribuables que nous sommes ne sommes pas protégés. Et on parle des violences faites aux femmes, c'est exactement la même chose. Quand vous pensez qu'une affaire de viol sur 10 va au bout, vous vous rendez compte la lecture de ce chiffre-là montre combien notre justice n'a pas le temps de faire bien les choses.
Et malheureusement, des fois, je me dis, c'est les vraies affaires, parce que voilà, il y a des montées pour moi. Enfin voilà, mais j'ai bien peur que les vraies affaires passent pour X raisons sous silence, quoi, et que j'espère pas. Je dis ça comme ça, mais j'espère que voilà, le maximum de vraies affaires sont traitées et bien jugé, quoi.
Je ne sais pas, mais vous voyez,
évidemment,
j'ai eu beaucoup de témoignages sur cette antenne de personnes qui avaient été arnaquées et qui n'ont même jamais eu la moindre nouvelle la moindre nouvelle de la justice. Ouais. Donc, ce sont.
C'est vraiment un petit bonheur, la chance, quoi. C'est aléatoire.
C'est juste, en fait, une histoire de respect à la vie. Et cette justice, aujourd'hui, ne respecte plus les citoyens que nous sommes. En ne faisant pas attention à nous, en ne s'occupant pas de nous, mais tout ça parce qu'on ne lui en donne plus les moyens, c'est-à-dire c'est encore une histoire d'argent, donc de budget, eh bien nous avons une justice qui fait la part belle aux arnaqueurs, aux mecs qui frappent les femmes, à plein de mecs finalement qui ont compris que bah, finalement ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Voilà.
Ouais.
moi, je vais vous dire, je vais avoir 60 ans cette année. J'ai connu un pays où vous n'aviez pas intérêt à faire ce genre de choses. De ça, c'était il y a 30 ans. Si vous frappiez une femme, il y a 30 ans, alors je parle vraiment, pour le coup, attention, hein, je parle de faits graves, parce que les violences aux femmes ont toujours existé et il y a eu une certaine permissivité ou je sais plus comment on dit, mais en tout cas ça, on a permis beaucoup de choses dans ce pays et puis dans tout le monde occidental, mais il y avait une justice qui roulait à un moment dans ce pays. Aujourd'hui elle ne roule plus.
Ça je sais pas, j'ai pas eu encore affaire à la justice.
Écoutez, j'espère que vous n'aurez pas affaire, en fait.
C'est ça. Oui, on me le dit, tout le monde me dit ça, mais bon, voilà, j'espère aussi. Enfin, je voulais vous parler un petit peu de ce malaise et puis ce qui est réel, quoi, chez les jeunes hommes, quoi.
Bon, mais n'oubliez pas que vous disiez que tout était possible au début de votre témoignage,
oui,
donc il faut que vous leur disiez à vos copains que tout est possible.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et alors, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon livre, là, que j'ai écrit sur le sujet. Est-ce que je peux donner le titre ?
Allez-y, je vous en prie.
C'est Paroxysme de la misère humaine et sexuelle. Mmh. Voilà, vous pouvez le trouver sur la FNAC, Amazon, etc. Et en fait, on a écrit, c'est un cri du cœur. Ces deux jeunes gars, en fait, on a écrit notre regard, en fait, sur la société, à travers ce qu'on constate, quoi, sur les réseaux sociaux, les interactions de femmes. Et c'est pas lourd, hein, comme c'est un petit livre qui parle de ça. Si vous pouviez le lire, j'aimerais bien avoir votre avis un jour, mais.
D'accord.
Voilà,
envoyez-le-moi ici à Europa.
Ça marche.
Si vous pouvez, hein.
Ben, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ça me fait très, très plaisir de vous avoir eu.
Hein, ben, moi aussi. Et puis, ben, comme ça, vous allez rêver de moi pendant 3 ans.
Ben, vous allez m'aider pour quel problème,
vous,
on verra.
Vous en aurez repris pour 3 ans, là. Ben, écoutez, oui, vous me direz, hein, si vous rêvez à nouveau, vous me le dites.
Je sais pas, mais bon, on verra.
Très bien.
En tout cas, merci de m'avoir aidé pendant ces 3 ans. Voilà.
Je vous en prie. Et puis, portez-vous bien, mon cher Steve.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Merci, au revoir.
everything all right.
Marty Balin. Avec le titre Hurts, il est 23h52 et nous accueillons Janine, que nous avons quittée cette nuit. Bonsoir Janine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors Janine, on devait finir cette conversation hier sur ces écrans tactiles, sur tout un tas de choses tactiles qui ne réfléchissent pas...
Pas sur les téléphones. La solution a été trouvée sur les téléphones.
Alors justement... C'est quoi sur le téléphone c'est...
Alors, vous voulez que je vous explique ?
Oui.
Alors, bon, je reprends, je résume un tout petit peu. Hein.
Allez-y.
Mon but, donc, ce n'est pas de me plaindre, mais d'alerter ceux qui ont le moyen d'agir pour stopper la distribution du terminal de paiement digital ou tactile, comme on veut. Moi, j'ai rien contre... Et nous, les aveugles, on n'a rien contre le progrès technique, bien au contraire. On a des ordinateurs, je vous en dirai deux mots. Nous n'avons rien non plus contre les écrans tactiles, justement, parce qu'on a des smartphones. Alors, il y a trois catégories, si vous voulez. Il y a les smartphones faits pour les aveugles. Alors, je ne sais pas, moi, j'en ai pas. J'en ai pas acheté parce que il y avait une entreprise qui avait fait faillite. Alors, il n'y avait plus de mise à jour et... Bon, c'était tombé à l'eau, alors j'avais un peu peur de... Comme il n'y a pas la vente habituelle, vous comprenez, on est quand même moins d'acheteurs, de clients.
Ben,
hein. Bon, les appareils actuels faits pour les aveugles, qui sont un peu smartphones quand même, ils ont l'air de bien résister. Mais bon, voilà. Mais les ingénieurs ont mis au point des applications qui nous permettent d'utiliser le téléphone. En apprenant, par exemple, alors, pour les Android, je ne sais pas, parce que j'en ai pas. Je suis désolée, je vais être obligée de citer un peu. Ça ne fait rien ?
Ah non, ça ne fait rien, allez-y.
Donc, alors, pour les iPhones, je suis obligée de citer, hein. Parce que moi, c'est ça que j'ai.
Oui.
C'est un téléphone ordinaire, mais il y a une application que beaucoup connaissent, alors qui marche pour nous avec des gestes. Il faut apprendre quelques gestes.
C'est-à-dire ?
J'en donne un.
Oui.
Par exemple, pour valider une application, pour l'ouvrir, on fait toc-toc avec un seul doigt.
D'accord.
Il y a des choses qu'on fait avec trois doigts. En tapant trois fois avec trois doigts, par exemple.
Et vous apprenez comment, ça ?
Eh ben, alors c'est un peu le problème, c'est un peu difficile. Alors, on trouve quelquefois des cours qui sont donnés, on apprend beaucoup entre nous, vous savez, en s'entraidant.
En s'entraidant, d'accord, en vous entraînant.
Là, je fais partie d'une association de l'antenne de la VH Val-de-Marne, moi. Il y a quelques-uns, les meilleurs en informatique, enfin on dit informatique, ouais je sais pas si c'est informatique et bureautique, tout ça en même temps, qui nous donnent des cours. Et puis il y a une bénévole qui a appris aussi à nous aider, vous voyez. Bon, et puis il y a deux ou trois endroits, la Fédération des Avocats de France, je crois, l'Association Valentin Huy de Duroc, enfin, qui est plus toujours à Duroc, mais qui donne des cours.
D'accord.
Donc, on s'entraide beaucoup entre nous. Alors, il y a ceux qui arrivent très bien, et puis ceux qui galèrent un peu, qui arrivent moyennement, c'est mon cas. Hein. Moi, je suis un peu moyenne en tout, je fais tout, alors je ne peux pas être pointue en informatique. C'est ça. Figurez-vous qu'il y a une entreprise qui vend des ordinateurs où seule la secrétaire est voyante. Tous les vendeurs et ceux qui installent les ordinateurs sont ou malvoyants ou non-voyants.
D'accord.
Eh ben oui, ça s'appelle Access Solution. Alors, c'est un peu cher, je trouve, mais il y a un très bon suivi. Et ils les installent exprès pour nous.
D'accord.
Alors, pour les ordinateurs, je reviendrai au téléphone, excusez-moi, il y a un peu de désordre. Pour les ordinateurs, il y a il y a une synthèse vocale, et puis deux lecteurs d'écran, puisqu'il faut bien une application qui nous lise ce qu'il y a à l'écran.
Oui.
D'accord. Alors, tout ce qui est image, icône, c'est foutu pour nous. Hein, faut du texte.
Oui, d'accord, oui. Ouais.
Alors, les deux applications, c'est, je les cite parce qu'il y en a que deux, JAWS,
oui.
Qui est payante. Alors, je sais pas, dans les entreprises, et puis il y en a qui l'ont. Et puis NVDA, qui est gratuite et qui est pas mal du tout. Moi, j'ai ça.
D'accord. Et vous arrivez donc avec votre téléphone à faire ce que vous voulez.
Alors, ça, c'est avec l'ordinateur. Hein.
Avec l'ordinateur.
Alors, je reviens au télé. C'est pour dire, hein, parce que je citais cette entreprise qui s'occupe de l'ordinateur. Bon. Mais moi, je trouve que c'est merveilleux. Ils sont pointus, ces gars qui font de l'informatique et qui ne voient pas. Mais alors, nous, la souris, ce n'est pas possible. Alors, il faut apprendre tous les raccourcis clavier, plein de raccourcis clavier. Vous voyez ?
Oui, bah, je vois, oui. Ça ne doit pas être évident quand même, hein, tout ça. Hein.
Non, mais vous savez, nous, on ne fait que de s'adapter dans la vie. On n'arrête pas. Alors, on s'entraide, on nous aide, des voyants nous aident aussi,
oui.
Bénévoles. Mais il y a des jours, il y a des moments où ça suffit. Et là, pour cette nouvelle machine que je dénonce, là, ça suffit. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
D'accord.
Parce que je ne vois pas à quoi ça sert.
Mm-hmm.
De passer à ce nouveau mode.
Bah, pour vous, c'est un obstacle évident.
Oh oui.
Ça ne peut pas être autrement.
On a trois solutions avec cette machine. Soit on demande à quelqu'un de faire le code,
oui.
Et là, c'est quand même pas une bonne chose. On ne doit pas donner
son
code.
Non, surtout pas. Hein? Surtout pas.
Soit on aura un jour une application sur smartphone, mais je vous ai dit hier... on peut nous voir, nous poursuivre et nous piquer nos smartphones en nous blessant même.
Mm-hmm.
Moi, je ne veux pas sortir mon smartphone.
Mais non,
dans
vous
la
avez raison.
Dehors
vous
et
avez
dans
raison.
Un magasin.
Bah, parce que vous sortez toute seule, vous, en plus.
Souvent, oui, avec mon chien. Mais
d'accord.
Mon chien, c'est un chien guide, hein, c'est pas un chien d'attaque.
Non, bah non, bien sûr que non.
Vous comprenez,
oui.
Je crois
il
pas
est tout gentil.
Pardon.
Il est tout gentil, votre